partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec Sabrina à la technique. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur IDFM Radio, la radio valdoisienne et d'IDF en FM, web radio, DAB+ et sur notre appli. Logistique, mobilité, aménagement, nous continuons au fil de nos émissions d'explorer toute la dynamique de CY Cergy Paris Université. Aujourd'hui, mardi 20 juin, focus sur CY Transport, une de ses autres entités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Pierre Vist. Bonjour Pierre.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'antenne d'IDFM Radio. Directeur exécutif de CY Transfer, un département de CY Cergy Paris Université, vous nous proposez ce matin d'aborder les enjeux liés au transport et à la mobilité, un secteur aujourd'hui stratégique, en lien étroit avec la prise en compte des transitions et la nécessité de s'adapter au changement climatique. À vos côtés, Vanessa Dallette. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Merci pour votre présence dans nos studios. Responsable des relations entreprises et de la communication de CY Transport, l'occasion pour nous de découvrir cette entité, donc de CY Cergy Paris Université, dont vous dites vous-même qu'elle propose une des offres universitaires les plus riches d'Île-de-France.
Exactement.
À vos côtés, Christophe Mimmer. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci également pour votre présence à nos côtés. Maître de conférence en géographie, responsable de CY Transport et directeur adjoint du laboratoire Matrice, vous nous expliquerez à la fois pourquoi cette création de CY Transport et ce laboratoire Matrice, la diversité des formations et recherches, des atouts pour répondre à ce défi des interactions incontournables entre réseaux de transport et territoire. Un débat qui s'annonce passionnant. Bienvenue et merci à tous les trois d'être les invités en direct de l'économie en direct. Pierre Vist, en octobre 2021, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires lançait une stratégie d'accélération transport, digitalisation et décarbonation des mobilités. Pour l'élaborer, il y a une large consultation auprès de l'écosystème des transports en France qui a été effectuée. Il y a une définition des priorités d'accélération de l'innovation dans la décarbonation et la digitalisation des mobilités, avec l'ambition de faire de la France un leader mondial des transports décarbonés et digitalisés face à une concurrence internationale accrue qui met au défi nos champions nationaux. Alors parallèlement, chez CY Transport, CY Cergy Paris Université, toujours plus de formation supérieure, de contenu pluridisciplinaire, favorisant les passerelles entre ces formations. Un atout pour vous face à ces enjeux, Pierre Vist?
Un atout, et puis un établissement comme le nôtre, un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, est le plus à même, surtout le nôtre qui a une dimension pluridisciplinaire, est le plus à même de répondre à ces défis qui, par nature, sont justement transversaux, comme vous l'avez rappelé. Qui couvre tout un tas de champs qui vont du juridique, par exemple, sur les problématiques d'autonomie des véhicules, jusqu'à des aspects extrêmement concrets et matériels à travers les batteries. Donc voilà, et c'est tout ce champ-là qu'on a la chance de pouvoir couvrir à CY Cergy Paris Université. Donc aussi bien d'ailleurs à l'échelle du périmètre de nos laboratoires, quasiment tous nos laboratoires un peu globalement sont concernés en préparant cette émission de près ou de loin par cette problématique qui bien évidemment est transversale. Les laboratoires et puis bien entendu il y a tout l'adossement aussi aux formations dont parleront tous les collègues qui sont à mes côtés ce matin. Donc voilà tout. Donc on est bien armé, une université pluridisciplinaire comme Cergy est bien armée pour affronter ces défis qui couvrent en effet tous les champs scientifiques, voilà, et avec la déclinaison si bien sur la partie recherche que formation.
Oui, et donc cette entité, donc CY Transfer, par rapport à l'annonce dont j'ai parlé là du gouvernement, est complètement armée pour relever ce défi.
Alors, CY Transfer va se positionner...
J'ai dit CY Transfer, je voulais dire CY Transport, excusez-moi.
Alors, je serai moins à même d'en parler, ce sera plus mes collègues.
Voilà.
Donc, moi, je suis
CY
Transfer, voilà.
Oui.
Donc, CY Transfer essaye, en tout cas, de répondre aux défis socio-économiques autour, bien entendu, des problématiques des transports, sur les aspects aussi de transition, etc., en présentant auprès des acteurs socio-économiques toute l'offre que l'on peut avoir. Alors, on va plus nous sur la partie formation, enfin sur la partie recherche. Hein. Donc on va présenter toute l'offre qui est en lien avec la recherche sur la partie innovation. Voilà. Mais bien évidemment, c'est un sujet dont on se saisit et dont on s'empare, tout à fait naturellement. D'autant plus que, bien entendu, l'université met aussi beaucoup l'accent sur la partie transition. Donc, dans notre feuille de route et dans notre ADN, on se saisit du sujet. Pour donner un exemple. On a répondu à un appel à projet des pôles universitaires innovation dont j'avais eu l'occasion de parler précédemment.
Absolument.
Ben dans les fondateurs des pôles universitaires et de l'innovation, il y a le CEREMA, hein, donc qui est un institut de recherche dans le domaine des transports, de l'aménagement, qui est un de nos fondateurs. Donc les liens sont naturels sur ce champ-là et ça montre bien la présence dans le pays d'un acteur comme celui-là montre bien que c'est un sujet qui pour nous est important en termes d'innovation et de transfert.
Alors, je vous laisse nous rappeler la diversité de ces laboratoires qui disposent de toutes les ressources nécessaires pour accomplir votre mission.
Oui, alors sur le champ des transports, comme je disais, ça couvre un champ extrêmement large et c'est cette chance que l'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer, par exemple, un acteur qui a une problématique qui peut être globale, justement, de pouvoir y répondre avec l'ensemble des compétences dont on dispose. Donc, j'évoquais tout à l'heure, par exemple, le droit sur des aspects de juridiques liés à l'autonomie des véhicules, la responsabilité, ça va concerner bien évidemment sur les aspects beaucoup plus matériels. Les batteries, ça peut concerner les aspects d'imagerie, de traitement d'image en lien avec l'électronique. Donc, on a des laboratoires sur ce sujet-là avec Etis, le laboratoire Sati également, qui lui est plus sur l'électromobilité. Donc voilà, tout le champ, tout le spectre des laboratoires peuvent être mobilisés sur les aspects de transport. Voilà.
C'est ça. On peut parler d'ingénierie électrique jusqu'à la géographie. On en parlera avec Christophe. Et puis la chimie, donc vous l'avez évoqué pour les batteries.
Oui, exactement. On va essayer de couvrir toute la chaîne aussi bien matérielle, par exemple dans le domaine de l'électromobilité, hein, en partant vraiment du matériau en lui-même, donc qui va permettre justement de fabriquer les batteries, etc., jusqu'à des aspects de gestion de l'énergie, avec le laboratoire Sati. On va voir tout l'aspect aussi lié à l'autonomie des véhicules, les aspects de capture d'imagerie, de traitement du signal, aussi. On a des problématiques, par exemple, pour minimiser les de façon énergique, enfin pour avoir des traitements qui soient beaucoup plus performants, notamment pour que les véhicules autonomes puissent être capables d'avoir une réponse par rapport à des, parce que l'enjeu c'est la latence de la réponse.
Oui, oui.
Donc on a tous ces sujets-là qui sont plus des sujets électroniques, mais pas que, qui peuvent être traités. Donc on voit le champ extrêmement large qui peut être couvert par les laboratoires sur ces problématiques-là.
Alors vous, je pense que nos auditeurs et auditrices vous connaissent maintenant. Un CY Transfer, c'est faire une collaboration entre l'université et puis les entreprises. Dans ce domaine, c'est toujours votre feuille de route.
Ah, c'est plus que jamais notre feuille de route, hein, puisque bien évidemment, c'est la raison aussi de notre présence à l'émission. Hein, c'est que pour nous, nous avons besoin de nous faire connaître, nous avons besoin de présenter en effet l'offre que l'on peut avoir en termes d'innovation notamment, puisque c'est la mission de CY Transfer, et puis bien évidemment développer tous ces partenariats. Donc, on n'est pas complètement démunis dans le domaine des transports, parce qu'on a déjà des contacts, des échanges qui sont pris sur un certain nombre de sujets, avec des entreprises diverses et variées. Bien évidemment, c'est un sujet.
Il n'y en a jamais assez. Et donc, quel type de transport, si vous deviez faire un appel aujourd'hui, qui pourrait... Vous êtes à la recherche de quel type d'industrie ? PME.
On met l'accent beaucoup. Il est clair que les sujets de transport sont globalement plutôt saisis sur la partie R&D par des gros acteurs. Mais il n'empêche que quelquefois autour de ces gros acteurs s'agrègent, notamment dans le cadre de consortiums, dans le cadre de projets sur lesquels il y a des consortiums. Bien évidemment, on met autour dans cet écosystème des transports d'autres acteurs, des utilisateurs. Ça peut être des gens dans le domaine de la logistique, ça peut être justement et des PME. Voilà. Donc typiquement, ça peut être tout à fait intéressant, et c'est aussi la raison d'être de notre présence ici sur l'antenne dans le Val-d'Oise, de dire que notre porte est ouverte pour faire découvrir nos laboratoires aux PME, aux entreprises, plus spécifiquement dans le domaine des transports ce matin, et pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Voilà. Donc on a régulièrement des sollicitations, quelquefois de la part de nos laboratoires, qui nous disent j'aimerais bien être en lien avec tel ou tel acteur sur tel ou tel sujet.
On va essayer. Alors moi, en préparant le dossier, j'ai découvert que Porsche, le constructeur Porsche, est en train de mettre au point un carburant de synthèse pour ses véhicules. Est-ce que des gens comme Porsche pourraient faire appel à des ingénieurs de CY où ils ont leur équipe et
non, les
tout est possible.
Tout est possible parce que on s'en rend compte que la porte de ces gros acteurs n'est jamais fermée. C'est-à-dire que plus un acteur est gros, plus il va être opportuniste. Voilà. Plus il est dimensionné pour faire de la recherche en lien avec l'université, et donc les collaborations peuvent être relativement simples de ce côté-là parce que ils sont structurés pour faire de la R&D, donc c'est relativement facile. Mmh. Et plus aussi il est ouvert parce que tous les contacts qu'on peut avoir, on s'imagine par exemple avec tel ou tel acteur, tel ou tel gros groupe qu'on va pas pouvoir. Parce qu'on se dit il a déjà ses collaborations sont établies avec tel ou tel, mais ils ont des besoins qui sont quelquefois sur des domaines tellement spécifiques que c'est là où une université comme Cergy plus que d'autres, enfin ou tout autant que d'autres, peut tirer son épingle du jeu, parce que comme on a des compétences quelquefois qui sont très ciblées à l'échelle d'un laboratoire, voire des fois d'une équipe ou d'un individu ou d'un chercheur, on peut tout à fait justement approcher ces acteurs et leur dire oui, on peut être contacté. Je pense à un exemple auquel je pense, là, dans le domaine avec Michelin par exemple, qui nous a contacté sur un besoin très spécifique.
D'accord.
Et de façon complètement ouverte, alors que Michelin historiquement à des collaborations avec un accord cadre avec le CNRS depuis peut-être 30 ans, peut-être même plus, des collaborations bien établies, mais on se rend compte que donc tout ça pour dire que la porte est ouverte, et alors la porte est d'autant plus ouverte en effet pour des acteurs plus petits, notamment des PME, et là c'est tout un travail qu'il faut que l'on mène de concert, mais on peut pas le mener seul, comme vous le savez, on le mène justement avec les acteurs du territoire, donc le CEVO, la CACP, on engage une dynamique à ce niveau-là pour justement se rapprocher de nos acteurs locaux et notamment dans le domaine des transports.
Oui, et puis pour rappel, juste pour si des chefs d'entreprise nous entendent ce matin dire que des gens que vous êtes prêts à mettre à disposition dans les entreprises vont leur proposer une R&D puisque c'est très cher la R&D, alors que là c'est un moyen d'avoir une R&D pointue sans avoir des budgets qui explosent.
Ben oui, parce que alors il y a déjà des dispositifs incitatifs qui sont mis en place par l'État. Je l'avais évoqué brièvement les fois précédentes. Mmh. Qui permettent justement pour une entreprise de collaborer avec l'université, avec des systèmes de crédit impôt recherche, etc., de crédit impôt collaboration, etc., qui vont permettre justement d'accéder à faire de la R&D à des coûts qui sont quand même relativement modestes. Donc ça c'est le premier point. Il y a d'autres aspects, c'est-à-dire que souvent dans la collaboration, on peut voir ça aussi comme une R&D externalisée.
Oui, absolument.
Donc voilà. Et c'est alors là aussi c'est l'autre enjeu et le grand enjeu du pôle université d'innovation, d'être justement dans une démarche encore plus aboutie en termes de R&D externalisée. Un exemple, c'est que par exemple, nous obtenons ce label de pôle universitaire d'innovation, en tout cas c'est notre feuille de route, ça nous donnera des financements, mais il y a déjà un certain nombre d'actions qu'on pourra mettre en place. Typiquement, on va mettre en place un bureau d'études, par exemple. Donc là, on est clairement dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on va assez loin. Alors, c'est déjà des choses qui existent ailleurs. Hein. On s'inspire aussi d'exemples qui
bien
marchent
sûr,
ailleurs.
Bien sûr.
Et donc là, typiquement, un bureau d'études, bah, justement, c'est de la R&D externalisée. Voilà. Donc, on est dans cette philosophie-là, ouais. justement, pour faciliter l'accès à la R&D aux PME et aux TPE.
C'est ça, vous avez avancé dans votre réflexion au point d'aujourd'hui proposer donc ce bureau d'études.
Alors, on n'est pas, il n'existe pas encore.
Mais
disons
encore,
que
mais
voilà,
c'est
ça
un,
fait
c'est
pas, voilà,
projet.
Exactement. C'est un projet au même titre que d'autres actions que l'on mène, on dirait notamment en direction des PME et des TPE.
Alors, on parlait de cette dynamique bien inscrite à l'université à travers CY Transport et puis qui se concrétise également dans une dynamique plus large au niveau national. Et c'est là où vous avez évoqué donc que CY est impliqué dans un consortium lié à la ville durable porté par le CEREMA. Alors peut-être un peu plus, si vous pouvez un tout petit peu plus développer le
oui,
CEREMA.
Alors. Oui, alors le CEREMA, mais je suis moins à même d'en parler,
ah,
mes collègues seront plus compétents
d'accord.
que moi pour en parler. C'est en effet un centre de recherche historiquement technique rattaché enfin à l'ancien ministère de l'équipement à la base,
oui.
et donc qui développe une activité de recherche aussi dans le domaine de l'aménagement des transports, de la mobilité. Et donc on a la chance d'être présent avec eux sur deux aspects, c'est-à-dire comme je disais, ils sont membres fondateurs du pôle universitaire d'innovation, donc c'est
oui.
un signal fort
oui.
envoyé puisque ces pôles qui, je rappelle, il y en aura à peu près une grosse vingtaine à l'échelle nationale. Nous, parmi les fondateurs, nous avons le CEREMA, on est quatre fondateurs, dont le CEREMA. Donc le signal est assez clair de ce côté-là. Et nous avons déjà des financements, puisque justement, on travaille... Alors, on est aussi partenaire d'un consortium dans lequel il y a CEREMA et bien d'autres acteurs sur le sujet justement de la ville durable et intelligente.
Mmh.
Et sur ces sujets-là, bien évidemment, les transports sont présents. Et là, nous avons déjà obtenu les financements. Nous avons au niveau de CY déjà un certain nombre de projets sur ces sujets-là qu'on espère voir financer dans ce cadre-là. Voilà.
Bien sûr. Des problématiques qui se font jour et qui vont faire que vous n'allez pas manquer d'activité probablement et qui vont permettre à vos chercheurs de pouvoir aller dans ces entreprises et puis leur apporter toute la R&D dont ils ont besoin.
Bien sûr, voilà.
C'est le but. Donc aujourd'hui, Pierre Vist, vos besoins sont toujours les mêmes, c'est-à-dire développer, renforcer vos liens avec les entreprises, en particulier ou du territoire. Là encore, si vous avez un appel à lancer, je vous en prie.
C'est toujours la même chose. Hein. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on essaye de se structurer et le pays va dans ce sens-là, puisque dans le PUI, donc il y a un axe fort que l'on a
PUI,
mis pour l'universitaire d'innovation,
hein, oui,
qui vise,
ouais.
alors pour rappeler, qui vise à créer à l'échelle d'un territoire des pôles. Donc, il y en a à peu près une bonne vingtaine au niveau national qui seront labellisés. L'objectif, c'est d'être dans une logique de guichet unique autour de l'innovation.
Mmh.
Donc, et ça va marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va avoir l'offre de l'innovation qui va venir de l'université en direction des entreprises et on va partir également des besoins des entreprises. Et donc, on met en place dans ce pays, nous avons fait figurer un certain nombre d'actions qui visent justement à rapprocher les entreprises universitaires. Donc, j'évoquais les bureaux d'études, par exemple,
mmh.
mais il y aura des clubs. Donc d'entreprises, il y aura également des actions de prospection qui seront beaucoup plus ciblées, notamment en direction des PME et des TPE, qui se feront en lien justement avec les partenaires que nous avons dans le PU, les communautés d'agglomération, le CEVO, etc. Donc mmh. par exemple, donc on est vraiment donc sur cette le PU est vraiment cette feuille de route et doit nous permettre justement d'aller être encore beaucoup plus proche que nous le sommes actuellement des entreprises et des PME du territoire. Voilà.
Vous avez une actualité à nous annoncer, Pierre, les Tech Days hein, sur le thème de la mobilité aérienne.
Oui, alors en effet, régulièrement, donc justement en lien avec des partenaires, donc la CACP, le CESE, donc le Carrefour Enseignement Supérieur Entreprise du Val d'Oise, le CESE 95. Et d'autres acteurs, on organise régulièrement des tech desks qui sont en effet sur un sujet ouvert aux entreprises pour justement aborder ce sujet-là, donc avec des intervenants qui apportent un éclairage. Et puis nous, c'est l'occasion aussi de présenter en effet justement l'offre des laboratoires de l'université, des formations. Et donc sur le sujet donc du 27 juin, celui de la mobilité aérienne innovante, bon, qui est un sujet évidemment très 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 présent et très énorme, enfin très porté en effet localement au niveau du territoire. Donc c'est un sujet, donc voilà, ces Tech Days se dérouleront le mardi 27 juin, le matin. Donc et déjà pas mal nous avons déjà pas mal d'inscrits à ce sujet qui est évidemment qui trouve beaucoup d'écho et de résonance, oui, en tout cas sur notre territoire. Voilà.
Alors je précise, donc le 27 juin à partir de 8h30 à la Turbine de Cergy sur la mobilité aérienne innovante.
Voilà, typiquement les drones.
Merci infiniment Pierre Wyss d'avoir répondu à mes questions. On retiendra que CYU se place en pole position pour construire les mobilités de demain. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après.
On s'est perdu, on s'est retrouvé, on est revenu, on est tombé, on s'est relevé. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, on s'est renouvelé. On ne s'habille pas, passons notre sort, on cherche des solutions. Y'a pas qu'une seule issue, alors on cherche là où elles sont, les quartiers nord à Paris Sud. On s'aille, on pleure, on sue. On passe des heures, on se tue. De ce qu'on s'aime, on n'est pas sûr. Un jour on s'aime, l'autre on s'aime plus. Sois pas esclave, toi ton histoire. Lève-toi pas, toi, amène la victoire. Mais faut que tu veuilles, compte pas sur eux. C'est toi et toi seul qui exaucera tes voeux. Partout, sur ton parcours, ouais, sur la route, t'auras des bâtons dans les roues. Aujourd'hui c'est dur, faut plus qu'on doute. Pour nous bientôt viendront les beaux jours. Yeah. Hey. Garde la tête haute, garde la tête haute. Devant les autres, devant les autres. Yeah. Hey. Pour nous bientôt viendront les beaux jours. Yeah. Hey. Garde la tête haute, garde la tête haute. Devant les autres, devant les autres. Yeah. Hey. Pour nous bientôt viendront les beaux jours.
Sois aveuglé par ta bonne étoile et fais le sourd quand leurs préjugés te parlent. Sur l'autoroute de tes ambitions, appuie sur le champignon jusqu'à ta pierre tombale. Peaufine ton potentiel dans le noir, évite les courants d'air qui pourraient éteindre ta flamme. T'es un bijou, t'es un zizou, zizou, un putain de diamant rare. Dieu ne donne pas ce que tu ne peux pas porter. 12 fois t'es tombé, mais 13 fois t'as su te relever. Malgré ta boussole cassée, au milieu des marées hautes de la vie, t'as toujours suivi ton phare. La rue nous a appris à nous débrouiller, surtout à nous adapter, à frapper sans lâcher. Malgré ce qu'ils t'ont destiné, n'oublie pas.
Pour nous bientôt viendront les beaux jours. Garde la tête haute, garde la tête haute. Devant les autres, devant les autres. Yeah. Hey. Pour nous bientôt viendront les beaux jours. Yeah. Hey. Garde la tête haute, garde la tête haute. Devant les autres, devant les autres. Yeah. Hey. Pour nous bientôt viendront les beaux jours. Yeah. Hey. Garde la tête haute, garde la tête haute. Devant les autres, devant les autres.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, focus sur le secteur de la mobilité et du transport à travers CY Transport, une entité de CY Cergy Paris Université. Pour en parler à mes côtés, Pierre Wyss, directeur exécutif de CY Transfer, un département de CY Cergy Paris Université. Vanessa Dalled, je prononce bien votre nom, oui, bon, je vous avais pas demandé avant. Responsable des relations entreprises et de la communication de CY Transport. Christophe Mimmer, maître de conférence en géographie, responsable de CY Transport et directeur adjoint du laboratoire Matrice. Vanessa Dalled, quelques mots sur votre parcours pour mieux faire connaissance avec vous.
Oui. Oui, donc je travaille depuis 15 ans dans le secteur marketing et communication. J'ai une grande expérience en fait en entreprise privée, en grand groupe, au sein de grands groupes internationaux. Et puis depuis quelques temps, je travaille depuis quelques années, je travaille au sein de CY Transport en tant que responsable relations entreprises et communication.
Et donc, aujourd'hui, vous accompagnez Pierre Vist et puis Christophe Mimmer pour nous parler de cette entité Seaway Transport, pardon, décidément. Je fais un mix entre transfert et transport, là, je comprends. et une formation dont vous dites qu'elle est une des plus riches en université.
Et oui, alors effectivement, Seaway Transport, en fait, est une nouvelle entité qui a été créée au sein de notre université, qui est dédiée, comme son nom l'indique, au transport et à la logistique. Et effectivement, elle propose une offre de formation qui est une des plus riches d'Île-de-France, puisque nous proposons des formations qui vont du bac plus 1 au bac plus 8, donc au doctorat, et donc qui permet vraiment une continuité de parcours pour l'ensemble de nos étudiants. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver juste après le bac au sein de Seaway Transport et puis finir avec un doctorat au bout de 8 années de travail.
Cette école, donc Seaway Transport, quand a-t-elle été créée ?
Elle a été créée en 2020.
Oui.
Et elle a été vraiment pensée comme une réponse en fait aux enjeux du secteur. C'est-à-dire que le secteur du transport et de la logistique est un secteur en pleine mutation, en pleine révolution. Les métiers évoluent énormément, la demande aussi est croissante. C'est un secteur aussi qui fait face à de nombreuses innovations technologiques, notamment le développement de tout ce qui est numérique et digital. Et parmi les autres enjeux, on a tout ce qui est enjeux environnementaux aussi. C'est un secteur vraiment qui doit répondre et qui doit être force de proposition, en tout cas face à toute cette problématique ou en tout cas ces enjeux environnementaux. C'est aussi au sein de ce secteur le bouleversement en fait des modes de consommation, notamment avec la croissance du e-commerce.
Oui.
Et puis l'effet Covid a je pense en plus amplifié
oui,
en fait
le phénomène, oui.
Ces comportements. Mmh. Et puis enfin, c'est tout ce qui va être ouverture plutôt à l'international, donc l'intégration européenne et également l'ouverture à la concurrence. Donc face à tous ces enjeux, je les ai pas tous cités, nous avons choisi en fait de vraiment valoriser ce secteur, valoriser les métiers également, valoriser nos formations au sein d'une même entité, donc Seaway Transport qui permet d'assurer une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité à la fois du secteur, de ses métiers et des formations.
Et est-ce que c'est une formation qui plaît aux jeunes, aux étudiants ?
Alors effectivement, le transport et la logistique, quand on est lycéen, on n'y pense peut-être pas forcément, à moins qu'on ait dans son entourage des personnes qui y travaillent. Il faut savoir qu'en fait, la discipline commune de base, c'est la géographie. Donc effectivement, tout le monde ne se rue pas non plus vers la géographie.
c'est pas quelque chose,
voilà. Au sein de Seaway,
malheureusement d'ailleurs. Hein,
malheureusement.
Mais peut-être qu'elle est peut-être pas forcément bien enseignée. Hein. Je pense que Christophe reviendra là-dessus quand on est en école, quand on est jeune, hein, les cours de géographie sont peut-être pas toujours très passionnants.
Je dirais pas ça, mais c'est juste que finalement, de manière assez particulière en France, l'histoire et la géographie sont enseignées par un seul et même enseignant. Mmh. Et il se trouve que les statistiques montrent que plus de 80% des enseignants d'histoire-géographie dans les établissements secondaires sont des historiens de formation. Et donc on ne peut pas leur reprocher ça d'ailleurs.
Hein.
Et alors que dans d'autres pays européens, la géographie est une discipline à part entière sous toutes ses formes, si bien la géographie économique et la géographie politique qui sont celles qui sont les plus enseignées dans le secteur secondaire, mais il y a également toute la géographie finalement physique, la géographie des populations, la géographie des ressources naturelles, et ça c'est quelque chose qui est en effet un petit peu moins appréhendé quand on est au lycée.
Oui, moi j'ai des souvenirs lointains de cours géographie, histoire, de cours histoire géographie, donc en fin de semaine, l'après-midi, donc un petit peu considéré comme une matière mineure, et voilà, c'est dans ce sens que je voulais dire qu'après il faut vraiment avoir une passion pour sa discipline pour s'y intéresser.
Oui, évidemment, et puis les programmes sont très chargés, donc forcément que de toute manière les enseignants doivent faire aussi
l'intérêt
des choix.
N'est pas le même,
et que les choix sont pas toujours évidents à faire de ce point de vue-là.
Merci Christophe Mimmer pour cette précision. Vanessa, donc vous disiez que on n'y pense pas forcément, mais malgré tout, CY Transport recrute beaucoup d'étudiants.
Oui, effectivement, beaucoup d'étudiants. En fait, c'est vrai que le transport et la logistique, ce sont des disciplines, j'ai envie de dire, qui sont qu'on touche du doigt au quotidien, c'est-à-dire qu'on est absolument que ce soit les transports publics, que ce soit le transport de marchandises, justement quand on achète en ligne et qu'on se fait livrer, on n'imagine pas en fait le potentiel des métiers qui sont derrière, on n'imagine même pas tous les métiers en fait qui peuvent exister. Et c'est vrai que nos étudiants, qu'ils commencent par la géographie ou pas, ou qu'ils viennent directement en transport et logistique, se rendent bien compte en fait qu'il y a justement du potentiel, que c'est un secteur en pleine, alors je disais tout à l'heure qu'il est en pleine mutation, en pleine révolution, mais il est vraiment en évolution, en pleine croissance, et les opportunités de recrutement et d'évolution professionnelle sont vraiment très, à la fois multiples et très très grandes. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui au premier abord ne semble pas vraiment
rock'n'roll,
voilà, très sexy, mais finalement, et d'ailleurs je précise qu'on a un public très féminin parmi nos étudiants.
Bien. Oui.
On n'est pas encore on n'a pas la majorité, mais on a beaucoup de femmes qui décident en fait de
rejoindre ce secteur.
Exactement.
On en parlera peut-être aussi tout à l'heure avec Christophe, mais c'est un secteur qui a du mal hein, en ce moment, ils sont en peine de recrutement ce secteur.
Effectivement, les recrutements, enfin il y a vraiment une pénurie de recrutement, que ce soit sur les talents, sur les compétences en fait, c'est-à-dire que les entreprises ne trouvent pas forcément en face les candidats qui ont les compétences requises pour les missions, et puis en nombre aussi, c'est-à-dire que effectivement l'activité étant en plein développement, il faut ensuite toutes les ressources humaines pour pouvoir mener à bien les missions, et donc c'est un secteur qui vraiment, je le disais tout à l'heure, a vraiment un potentiel de recrutement très important. Donc on œuvre aussi d'une à former les jeunes et les moins jeunes aussi, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, mais notre offre de formation s'adresse également aux professionnels qui sont déjà en place sur le secteur, ou alors des professionnels qui voudraient se reconvertir, et donc on essaie de former à la fois. Alors pas forcément en nombre, on tient quand même à avoir des promotions
de qualité,
qualité, avec des promotions qui ne dépassent pas la trentaine d'étudiants en niveau licence et master, mais on tente en tout cas au niveau qualité de répondre vraiment aux problématiques et aux enjeux des entreprises en étant en proximité avec elles pour vraiment répondre à leurs attentes et à leurs besoins.
Oui, et ce problème de recrutement que nous évoquions fait que les jeunes ont tout intérêt à aller dans ce secteur, puisqu'ils sont sûrs de trouver du travail, ce qui reste aujourd'hui une problématique malgré tout pour les jeunes.
Oui, en gros c'est ça, c'est-à-dire que se diriger vers le transport et la logistique, c'est vraiment s'assurer.
C'est s'assurer d'avoir un vrai travail.
Exactement, et d'avoir vraiment cette opportunité d'évolution aussi. Dans beaucoup d'entreprises, qu'elles soient en transport ou en logistique, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des possibilités d'évolution en interne, parce que la richesse des métiers fait que on apprend aussi, on apprend à l'école, on apprend à l'université, on apprend au sein de CY Transport, on apprend aussi au quotidien, et on peut évoluer au sein des entreprises.
Alors cette proximité dont vous parliez et qualité avec les acteurs du secteur fait que vous êtes également en proximité avec des grands groupes, et vous pouvez les citer, Vanessa, sans problème.
D'accord, oui, je me demandais si je pouvais le faire.
Oui,
effectivement, en fait, alors il faut savoir, j'aurais peut-être dû aussi commencer par là, CY Transport donc porte des formations transport et logistique qui, elles, ne sont pas nouvelles en fait. Historiquement, elles étaient déjà présentes au sein de l'université, mais c'est vrai que et c'est pour ça aussi que CY Transport est né, c'était pour assurer vraiment cette visibilité des formations, Et donc, on a des partenariats, en fait, vraiment historiques avec de nombreuses entreprises, donc plus d'une centaine, en tout cas, et des grands groupes tels que donc la RATP, la SNCF, pour tout ce qui est transport de voyageurs. On a également Transdev, Keolis. On a aussi des acteurs plus institutionnels comme Île-de-France Mobilité.
Oui.
Voilà. Et ensuite, alors...
Avec lequel nous avons une petite... Enfin, on n'a pas de problème, mais c'est IDFM aussi, comme IDFM Radio.
Voilà, donc je précise la thématique.
Donc, je sais qu'on pose la question parfois.
Oui. Et donc, mais on a aussi énormément de liens avec des PME. C'est-à-dire qu'on n'est pas, les partenariats entreprises ne se concentrent pas sur les grands acteurs du secteur, et puis aussi beaucoup de d'entreprises locales en fait, entreprises du département, et on essaie vraiment de faire en sorte d'avoir à la fois des très grands acteurs, y compris dans la logistique, mais également des PME qui vont avoir ces enjeux transport et logistique.
Oui, et puis qui vous donne finalement un carnet d'adresses pour vos étudiants pour ensuite trouver des emplois très très certainement.
Exactement, les liens qu'on a avec les entreprises, ils peuvent commencer en fait par la recherche. Ça peut être aussi du recrutement en apprentissage, d'autant plus que le gouvernement pousse en fait et œuvre pour que les entreprises choisissent en fait ce mode de recrutement. Je sais qu'il y a une campagne en cours actuellement pour promouvoir l'apprentissage, parce que c'est vraiment, nous on y croit hein, depuis très très longtemps au sein de CY, et on sait que c'est très bénéfique à la fois pour l'entreprise mais aussi pour nos étudiantes et nos étudiants, mais c'est aussi effectivement, ça peut passer par les stages. Ça peut être aussi du mécénat, puisqu'on a une fondation, CY est dotée d'une fondation, mais c'est également c'est là aussi toute l'ambition de CY Transport, c'est de voilà, on est là maintenant pour nos étudiantes, pour les former, mais on est là, on a l'ambition en tout cas d'être là aussi après, c'est-à-dire de garder ce lien avec eux quand ils seront eux-mêmes professionnels et effectivement
et
les aider
vous
à...
apporter leur propre expérience
exactement,
en retour.
Exactement, ouais. Qu'ils viennent intervenir dans nos formations pour exposer aussi leur vision, l'évolution en fait aussi du secteur et donc voilà, tous les liens passent par tous ces biais et effectivement le recrutement en est un aussi pour les premiers emplois.
D'où votre slogan, nous souhaitons faire bouger les lignes.
Exactement, notre slogan. Faire bouger les lignes, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est, on a, alors sans aucune prétention, en tout cas, on espère ne pas être qu'une école au sein de l'université. On espère vraiment apporter autre chose aussi via notre laboratoire de recherche. C'est-à-dire essayer de, au quotidien, créer une sorte de réflexion commune, c'est-à-dire que finalement la mobilité est un sujet vraiment commun. Moi qui n'ai pas de formation en transport et logistique, enfin je suis forcément touchée par la mobilité, donc c'est comment tous ensemble, que ce soit les entreprises, que ce soit les partenaires plus institutionnels, les organismes de recherche, les étudiants, les futurs étudiants, les lycéens, même les collégiens, on essaie aussi d'aller à leur rencontre, voilà, comment tous ensemble on arrive à créer la mobilité finalement de demain et faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
Donc. Oui, oui, d'autant que on peut dire que le paradigme du changement climatique et de la décarbonation est complètement rentré dans les esprits maintenant, hein. Ce serait fou de dire qu'on n'est pas au courant. Et peut-être que les jeunes sont attirés par cet aspect.
Effectivement, il y a beaucoup de. Alors effectivement, maintenant, je pense que dès la petite enfance, on est vraiment éduqué, en tout cas, à ce respect de l'environnement.
Oui, oui.
Et effectivement, les jeunes sont. C'est ce qu'on voit nous, en tout cas, au sein de CY Transport, c'est que les jeunes sont impliqués au-delà, en fait, de leur formation. Ils sont vraiment. Il y a vraiment un engagement, en fait,
oui,
citoyen,
oui, complètement,
pour faire bouger les choses et pour faire en sorte, voilà, que la société de demain corresponde, en fait, en tout cas à leurs attentes et en même temps au développement économique des sociétés.
Alors j'ai dit en préambule avec Pierre Vist, je parlais de cette stratégie là lancée par le ministère de l'écologie, mais au fond vous n'avez pas attendu vous que cette stratégie soit lancée pour créer CY Transport.
Effectivement, on essaie de faire bouger les lignes. Comme
oui. Vos besoins, Vanessa Dallet, aujourd'hui, quels sont-ils?
Alors, au niveau de CY Transport, donc comme on est quand même, alors même si nos formations existent depuis longtemps, on est tout nouveau en fait au niveau vraiment, enfin notre marque en tout cas, CY Transport est assez nouvelle. On a besoin effectivement de faire parler de nous, d'où ma présence aujourd'hui, et aussi de bien montrer de démontrer en tout cas aux entreprises qu'il y a tout un intérêt en fait vraiment commun, que ce soit sur du recrutement, que ce soit comme Pierre tout à l'heure le disait sur des enjeux de recherche, de développement, à travailler finalement main dans la main et à essayer comme on le disait tout à l'heure de construire des choses ensemble en fait.
Les besoins de la profession se rejoignent avec vos formations, forcément.
C'est-à-dire, pardon.
Parce que donc le secteur est en pleine mutation et puis fait face à de nombreux enjeux. Donc les mobilités, transports se rejoignent complètement avec les formations que vous proposez.
Oui, effectivement, oui. On essaie vraiment d'intégrer les enjeux en fait et ces évolutions et d'où l'importance en fait d'être en lien très très étroit avec les acteurs professionnels. C'est-à-dire qu'on est nous essayons en tout cas d'être connectés aux enjeux, au monde professionnel, à ces enjeux, à ces évolutions et nous intégrons en fait au sein de nos formations tous ces paramètres. Qui font que le savoir n'est plus seulement académique, mais il est vraiment porté par des professionnels. Et on a également énormément d'intervenants professionnels au sein de nos formations qui, au-delà de justement de ce savoir académique, pardon, que nos enseignants et nos enseignants-chercheurs peuvent apporter à nos étudiants, les professionnels sont plutôt là pour donner la réalité du terrain et de mettre en relation en fait effectivement tout ce savoir théorique et le savoir pratique.
Vous pouvez nous donner un aperçu des formations concrètes qui sont proposées?
Oui. Alors on a donc juste post-bac, donc dès qu'on a le bac, on peut postuler au bachelor universitaire de technologie, donc un BUT qui est préparé en 3 ans sur notre site d'Argenteuil. Et ensuite, on a également, alors c'est un bachelor donc en 3 ans, dès la troisième année, une spécialisation en transport de voyageurs est possible via notre licence professionnelle transport de voyageurs.
D'accord.
Ensuite, nous avons 3 masters, donc un master en management logistique, un autre en exploitation et développement des réseaux de transport public, donc là qui est plus axé transport de voyageurs, et le dernier transport, un master transport territoire et environnement.
Très bien. Bah écoutez, merci pour toutes ces précisions. Donc des formations là qui doivent se terminer puisqu'on est en juin et qui redémarrent en septembre.
C'est ça. Pour la plupart redémarrent en septembre, voire en octobre et pour de nouvelles promos. Alors je précise juste que notre bachelor universitaire de technologie est accessible également ça nous tient à cœur, pardon. Oui. Accessible aux bacheliers professionnels en fait. Donc on a un parcours vraiment spécifique qui s'adresse à eux et qui permet en fait pendant une année de transition, donc la première année, d'acquérir en fait toute la méthodologie universitaire et ensuite de pouvoir poursuivre leurs études, voire même jusqu'au master.
Et vous parliez de seniors tout à l'heure, donc
oui. Oui, pardon.
Je vous laisse en dire un mot, bien sûr.
Alors, l'ensemble de nos formations sont ouvertes à l'apprentissage. Donc, on peut effectivement être apprenti au sein de CY Transport. Et l'ensemble aussi de ces formations est accessible via la formation continue, en fait. C'est-à-dire que des professionnels ou des demandeurs d'emploi peuvent venir postuler au sein de nos formations et se former via divers dispositifs, en fait.
Et pour la rentrée de septembre, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire à certaines formations ou tout est...
Alors pour les parcours classiques au niveau des étudiants, non, parce que tout est bouclé. Pour tout ce qui est professionnel en fait,
c'est possible. Et donc que faut-il faire si des auditrices, auditeurs nous écoutent et veulent s'inscrire?
Alors ils peuvent nous contacter Je donne mon adresse email.
Vous pouvez.
Je pourrais envoyer vers un site web.
Envoyer vers un site web, oui, bien sûr.
Pardon. Ils peuvent se rendre sur notre site en fait, donc cytransport.cyu.fr et en fait une rubrique contact me permettra d'accéder aux diverses demandes.
Très bien. Alors dans mes questions, je demande parfois si vous avez besoin de recruter, mais vous me disiez que non. Mais en revanche, toutes les demandes peuvent être accueillies et éventuellement examinées.
Exactement. Alors moi personnellement, effectivement, je n'ai pas de besoin en recrutement. Néanmoins, en fait, on a là la procédure de sélection de tous nos candidats est pratiquement bouclée et certains cherchent des entreprises en fait d'accueil. Mmh, mmh. Donc si des entreprises sont intéressées pour recevoir un étudiant ou une étudiante de CY Transport, qu'ils nous contactent.
Il sera bienvenu.
Voilà,
très bien.
On leur présentera nos meilleurs profils.
Pierre Vist, vous voulez ajouter quelque chose au témoignage de Vanessa sur sa présentation de CY? Non. Donc, elle a tout dit. Merci Vanessa Dallette pour cet échange. On comprend mieux votre regard sur CY Transport comme proposant une des offres universitaires les plus riches d'Île-de-France, je rappelle. On marque une nouvelle pause avant d'enchaîner précisément sur la richesse de ces offres universitaires avec Christophe Mimmer. À tout de suite.
Je veux rentrer chez moi, là où l'air est pollué et où les gens ne sourient pas. Je veux rentrer chez moi, là-haut sur la colline, juste au-dessus de l'usine. Et puis un tas à Montpellier, pécho un 12 à Toulouse et des Morbac à Carnac. J'ai roulé des pelles à Saint-Malo et mangé tout bio à Millau. À Cognac j'ai bu du Merlot et je suis pas allé à Bordeaux. Je veux rentrer chez moi, l'usine. J'ai pris un bid à Valence, on fait fumer de l'herbe de Provence. J'ai fait la révolution à la Ciotat, j'ai pris mon oseille à Marseille. À Brest j'ai bu une pinte, dans les Deux-Sèvres j'ai bu de l'absinthe. Puis j'ai bu du rhum à Saint-Dier, à Troyes j'ai bu du Perrier. Je veux rentrer sur la Seine et le béton.
Vous nous rejoignez peut-être, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Nouveaux enjeux liés au transport et à la mobilité, c'est le thème de notre émission. Et nous ne sommes plus en compagnie de Pierre Wyss qui a dû nous quitter. Pierre Wyss qui est directeur exécutif de CY Transfer, un département de CY Cergy Paris Université, mais je suis toujours en compagnie de Vanessa Dalled, responsable des relations entreprises et de la communication de CY Transport, et Christophe Mimmer, maître de conférences en géographie, responsable de CY Transport, j'ai du mal, hein, transport et transfert, et directeur adjoint du laboratoire Matrice. Christophe Mimmer, donc vous avez un parcours académique brillant, maître de conférences en géographie notamment. Alors vous, les cours de géographie en fin d'après-midi, ça vous a pas dégoûté?
Ah, pas du tout,
visiblement.
Au contraire. C'est vrai que depuis le lycée, j'ai hésité longtemps entre l'histoire et la géographie. Je voulais devenir prof d'histoire-géo précisément.
Oui, oui.
Et puis je m'étais dit que si jamais un jour je voulais changer un petit peu d'orientation, peut-être que l'univers des possibles était plus large en géographie qu'en histoire. Et finalement, la réalité des choses m'a plutôt donné raison, puisque en master, j'ai goûté à la recherche une fois, et puis j'en suis plus tellement sorti depuis. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir continuer en doctorat. Donc j'ai fait toutes mes études à l'université de Bourgogne à Dijon.
D'accord.
Et puis à la suite de la soutenance de ma thèse en 2016, j'ai rejoint l'Île-de-France, d'abord comme chercheur contractuel dans l'Est parisien, et puis depuis 2018 à Cergy Paris Université.
Bien, et donc un endroit que vous avez découvert et dont vous trouvez qu'il apporte tout ce dont vous aviez besoin?
Bah effectivement, comme ça a été présenté par Vanessa tout à l'heure, l'offre en formation transport est vraiment très large et répond et on va dire coche toutes les cases de mon point de vue par rapport au parcours que j'ai en mobilité et en transport, donc si bien du côté des formations pour la partie enseignement, puis aussi du point de vue recherche, parce que évidemment un laboratoire s'est constitué, on aura peut-être l'occasion d'y revenir de manière très récente, dans lequel du coup je peux effectivement on va dire dérouler l'ensemble des thématiques de recherche qui me tiennent à cœur.
C'est ça. Et puis, donc avec vous, on va pouvoir apporter une attention particulière à l'évolution des infrastructures et services de transport sur le temps long, puisque aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de la problématique qui se présente, hein, dans le monde d'ailleurs. C'est pas que en France, en Europe.
Hein. Alors effectivement, les infrastructures sur le temps long, c'est un peu mes premières amours et la thématique de ma thèse. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour mieux comprendre aussi les enjeux d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai plutôt un prisme ferroviaire de par l'expérience que j'ai eue en doctorat, mais finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les réseaux techniques, les réseaux de transport s'inscrivent dans les territoires et sur le temps long avec des propriétés qui sont somme toute assez communes, aussi bien du point de vue de leur déploiement et de leur croissance dans un premier temps, que parfois leur arrivée à maturité et leur décroissance ou obsolescence dans un second temps.
Oui. Alors donc peut-être avant d'aborder ce point là sur l'évolution, vous vouliez revenir justement sur les formations en transport et logistique, la richesse de l'offre universitaire.
Alors Vanessa dit déjà beaucoup de choses. C'est vrai que CY Transport, le sous-titre de l'école, c'est logistique, aménagement et mobilité,
oui.
Parce que les enjeux aujourd'hui se concentrent à la fois sur les infrastructures, leur insertion dans les territoires, si bien les territoires urbains, on parlait de la ville durable tout à l'heure, mais également dans les territoires peu denses, qui aujourd'hui font face à des enjeux tels que la dépendance à l'automobile et l'absence de réseaux de transport
collectif. Je peux vous citer un cas très précis, Privas en Ardèche, qui qui n'a pas de gare.
Bien sûr,
ouais. Ça paraît incroyable.
C'est l'un des départements
qui n'a pas de gare.
Qui bénéficie de la desserte ferroviaire la moins étoffée, on va dire. Également la dimension logistique, puisqu'on parle depuis longtemps de mobilité de personnes, mais depuis aussi quelques temps, on parle aussi de la mobilité des marchandises. Mmh. Et toutes les questions ne sont pas transposables, mais sont malgré tout complémentaires, notamment en ville, quand on parle de logistique urbaine, de logistique du dernier kilomètre, quand on parle aussi de cohabitation des trafics de voyageurs et de marchandises dans des espaces qui sont très contraints, etc. Du coup, évidemment que notre offre de formation est très diversifiée et répond à l'ensemble de ces enjeux.
Et il est certain que tout à l'heure Vanessa nous citait des partenaires très connus, la RATP, la SNCF, enfin et d'autres. Mais est-ce que vous avez aussi des relations étroites avec des gros transporteurs? Parce que le problème est là aussi, de pouvoir les convaincre. Hein, parce que je pense qu'on va parler du fret ferroviaire tout à l'heure.
Je
vais peut-être un peu vite dans.
Non, c'est vrai qu'évidemment, aujourd'hui et particulièrement en Île-de-France, l'actualité est très riche du fait d'une part des problématiques d'infrastructure et de leur entretien, de leur maintien, et puis d'autre part les besoins des usagers, c'est-à-dire à la fois les besoins des voyageurs mais également des entreprises pour faire se déplacer les marchandises à proprement parler. Et face à ça, nous, on essaye d'être au plus près des préoccupations des entreprises à travers le recrutement d'alternants, à travers la formation de nos étudiants, également en termes de recherche, en s'intéressant à des questions qui se posent de manière beaucoup plus précise de la part d'entreprises. Et dans ce cadre-là, on a vous parliez tout à l'heure de l'incitation, on va dire, de l'État au travers de programmes tels que France Relance, etc. Il se trouve que notre laboratoire de recherche avait répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelait Digitalisation et décarbonation du transport ferroviaire. Et dans ce cadre-là, notre équipe de recherche travaille dans un projet qui regroupe un consortium d'industriels, SNCF, mais également plusieurs laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales sur le train léger innovant. Pour le coup, plutôt dans les territoires peu denses, et qui se pose tout ce type de questions-là. À la fois, finalement, on a des infrastructures qui aujourd'hui sont vieillissantes, pour lesquelles la question de leur financement, de leur régénération est très problématique. La question est donc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement, avec des coûts peut-être plus abordables pour les collectivités, pour les pouvoirs publics, et en même temps fournir un service malgré tout à la fois aux usagers, aux voyageurs et aux marchandises. Donc c'est nous dans ce projet de recherche là, on s'interroge sur les positionnements des acteurs publics en termes d'aménagement. Comment est-ce que ils repensent leur territoire à l'aune de ces enjeux-là, en termes de densification autour des gares, par exemple, en termes également d'acceptabilité de ces nouveaux modes de transport par les voyageurs. C'est pas parce qu'on décide de développer un train léger innovant que les voyageurs sont prêts à le prendre, et dans quelle mesure seront-ils prêts à le prendre. Puis, puisque vous parlez de la question du fret ferroviaire également, la question se pose de aujourd'hui on fait le constat de notamment sur le mode ferroviaire d'une part modale qui est sinon décroissance, en tout cas très faible, et de comment essayer d'inverser la tendance là. Et quand bien même on a des souhaits et quand bien même on a des plans de relance ferroviaire annoncés quasiment tous les 6 mois depuis 10 ans, si on ne répond pas aux besoins, on va dire immédiats, des entreprises en termes de proximité avec une infrastructure, en termes de flexibilité par rapport à leurs fournisseurs et leurs carnets de commandes, on n'arrivera pas à mettre des marchandises sur les trains. Donc cet exemple-là de ce projet de recherche-là, il englobe tous ces enjeux-là à travers, et ça je pense c'est aussi la richesse de notre laboratoire, et on le disait tout à l'heure de l'objet transport, c'est que c'est un objet qui est très pluridisciplinaire. Et donc dans notre laboratoire matrice, mobilité, aménagement, transport, risque et société, qui réunit à la fois des enseignants-chercheurs de CY, Sergi Paris Université, et des chercheurs du CEREMA, dont Pierre parlait tout à l'heure. Eh bien, nous sommes à la fois des économistes, des aménageurs, des sociologues, des géographes, et ça montre bien que finalement, ces questions-là, ces enjeux, ne se limitent pas à une histoire d'équations économiques, ne se limitent pas à forcément l'aménagement de telle ou telle zone, mais aussi, ça, il faut s'intéresser vraiment au comportement des usagers et à leur
facteurs,
et à leur motivation ou pas à se reporter vers ce type de mode de transport.
En gardant aussi une vraie notion de rentabilité pour les organismes qui vont faire fonctionner ces mobilités. C'est-à-dire, je pense, la SNCF, pourquoi il n'y a pas de gare, j'imagine, en Ardèche, c'est probablement que la SNCF n'y trouvait pas son compte.
Alors, il y a ça, puis ça me permet de revenir sur le temps long dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est que le monde ferroviaire, comme tous les réseaux, mais peut-être encore plus celui-là, est marqué par une très forte inertie.
Oui.
On est ici à proximité de voies ferrées qui ont finalement été construite il y a plus de 150 ans. Donc on appelle ça la dépendance au sentier, c'est-à-dire que évidemment qu'on peut pas créer de nouvelles infrastructures de manière très rapide et partout pour des raisons économiques et de rentabilité notamment. Et donc finalement dans ces territoires-là, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres modes de déplacement qui de manière raccourcie on avait tendance à se tourner vers l'automobile jusqu'à présent, et on se rend compte que les nouveaux enjeux liés à la transition font que peut-être il faut se tourner vers des modes alternatifs à l'automobile peut-être vers de nouveaux services de mobilité mais le ferroviaire n'est peut-être pas forcément la réponse
à
apporter
pas la réponse,
partout non plus.
Je comprends.
Donc voilà, c'est tout un panel qui est finalement très large.
Et c'est là où votre réflexion est nécessaire. Christophe Mimmer, je vous propose de faire une courte pause et puis on reprend juste après.
C'est pas ma faute à moi si je dansais pas ce soir. Ça fait longtemps, j'ai jamais effacé ton nom de ma mémoire. Non, c'est pas ma faute à moi si je pense à toi ce soir. Et si souvent, j'aimerais que cet adieu ne soit qu'un au revoir. Oui, t'étais bien la bonne personne. Dire que tu m'avais manqué. Je voudrais arrêter le temps pour pouvoir t'emmener ailleurs, être celui qui te manquait. J'ai tant de mal à oublier, mais t'es de loin de moi. Tu sais, je voudrais arrêter le temps pour pouvoir t'emmener ailleurs, être celui qui te manquait. Non, c'est pas ta faute à toi si je dors plus seul ce soir. J'ai pris du temps, mais plus il passe. Je finis par le voir. Oui, t'étais bien la bonne personne. Et j'étais pas la bonne personne. J'aimerais remonter le temps pour voir te parler des heures. Dire que tu m'avais manqué. J'aimerais arrêter le temps pour voir t'emmener ailleurs. Être celle qui te manquait. Dire que tu m'avais manqué. Je voudrais arrêter le temps pour pouvoir t'emmener ailleurs, être celui qui te manquait. J'ai tant de mal à oublier, mais t'es de loin de moi. Tu sais, je voudrais arrêter le temps pour pouvoir t'emmener ailleurs, être celui qui te manquait. Dire que tu m'avais manqué. Je voudrais arrêter le temps.
C'est l'économie en direct et ce matin nous parlons des enjeux, des nouveaux enjeux liés au transport et à la mobilité avec à mes côtés Vanessa Dalled, responsable des relations entreprises et de la communication de CY Transport, Christophe Mimmer, maître de conférence en géographie, responsable de CY Transport et directeur adjoint du laboratoire Matrice. Christophe Mimmer, on a bien compris ces enjeux stratégiques hein, de la mobilité, de l'aménagement du territoire. Peut-être une approche géo-historique. On a commencé à en parler un petit peu avant la pause pour en comprendre l'évolution.
Alors, c'est toujours intéressant, comme je le disais tout à l'heure, de mettre un petit coup dans le rétroviseur de temps en temps, parce que finalement, on décrit souvent les transports comme étant celui qui permet un choc d'accessibilité et qui permet de réduire les coûts de transport. Et donc, de ce point de vue-là, on a très bien vu aussi dans l'histoire longue des réseaux comment la dynamique des territoires s'est jumelée avec la dynamique des réseaux. Alors jusqu'à une vingtaine, une trentaine d'années, on mettait beaucoup d'espoir dans le transport qui était hérité finalement d'une vision du 19e siècle où finalement l'arrivée d'un réseau de transport dans un territoire allait provoquer automatiquement
une révolution,
un développement économique, un rapprochement des hommes, etc. Depuis quand même une trentaine d'années, la communauté de chercheurs s'accorde à dire que on n'est pas du tout sur des effets automatiques, on est sur des potentialités à activer. Et de ce point de vue-là, on constate que finalement les réseaux viennent accompagner, accélérer parfois des dynamiques qui existaient déjà. Et c'est ce dont on se rend compte encore aujourd'hui, notamment quand les problématiques se centrent autour des lignes de desserte fine du territoire, par exemple, où la question qui se pose effectivement, c'est non seulement comment faire en sorte de provoquer un report modal pour mettre fin au tout automobile, mais également en essayant de développer de nouveaux usages du ferroviaire dans ces territoires-là.
Christophe Mimmer, vous êtes aussi avec nous. L'enjeu primordial aujourd'hui, c'est la décarbonation des mobilités à l'heure de la transition environnementale. Là aussi, c'est un gros enjeu pour.
Alors cet enjeu il est pas nouveau.
Oui.
Il est peut-être de plus en plus présent dans les débats et dans nos formations, c'est quelque chose qui était intégré depuis déjà un certain temps. Hein. Effectivement, la notion de durabilité des transports, c'est quelque chose qui aujourd'hui est incontournable de tous les modes de transport, mais également de la manière dont on va penser l'aménagement, dont on va penser les implantations d'entreprises, dont on va penser aussi la mixité fonctionnelle des territoires. Et dans nos formations plus particulièrement, on va mettre l'accent sur ces enjeux-là à travers notamment des actions très pratiques. La fresque du climat, par exemple, c'est un dispositif qu'on essaye de développer auprès de nos étudiants pour les faire prendre conscience de tous les enjeux qui sont liés à la durabilité des territoires et de voir que finalement tout ça fait système et que la complexité de cette question est beaucoup plus encore large que ce qu'on peut imaginer. Et puis c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus pris en compte dans les entreprises, on le voit très bien, dans la manière dont ils envisagent leur stratégie de développement. On parlait notamment tout à l'heure des transporteurs routiers, par exemple. C'est quelque chose qui demande de plus en plus. Et tout ça, en fait, ça se joint au développement du numérique, au développement digital dont Vanessa parlait tout à l'heure, où finalement les nouveaux outils numériques et l'usage croissant du digital va permettre également d'optimiser des tournées, des itinéraires pour, limiter les émissions de gaz à effet de serre, si je prends l'exemple du transport routier de marchandises, par exemple.
Oui, et donc là, vous pensez qu'il y a un gros travail aussi à effectuer auprès des utilisateurs ?
Alors, il y a un gros travail auprès notamment des entreprises pour faire prendre conscience de ces enjeux-là, pour les accompagner aussi dans leur transition, parce que ça s'accompagne de nouveaux outils, ça s'accompagne de nouvelles méthodes de travail, quelque part. Et donc, forcément que là aussi, on peut parler d'inertie. Hein, c'est peut-être même s'il y a urgence, c'est peut-être l'histoire d'une génération, parce qu'on sait très bien que les modes d'organisation, on ne les bouleverse pas d'une année sur l'autre. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est central et dont nos étudiants, je pense, ont désormais conscience.
C'est ce que j'allais dire, il faut peut-être attendre une génération pour que les choses se bougent vraiment, mais peut-être qu'aussi qu'avec ces étudiants que vous êtes en train de former, ça permettra peut-être d'accélérer le mouvement.
On espère, il le faut.
Oui, il le faut, ça vient. Alors, il y a aussi, le climat, c'est aussi des catastrophes naturelles. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion ?
Alors, dans notre laboratoire de recherche, qui regroupe, comme je le disais, à la fois des aménageurs, des géographes, des économistes, effectivement, on a tout un axe de recherche qui est autour des pratiques de l'aménagement et de l'appréhension des réseaux face aux risques, et notamment face aux risques naturels. Comment est-ce qu'on reconstruit en situation d'urgence ? Comment, dans de manière post-catastrophe, comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on adapte les réseaux aux nouveaux enjeux qui sont liés au changement climatique ? Et finalement, on se rend compte que ce sont des champs de recherche qui sont assez peu étudiés et qui ont souvent été abordés par le prisme d'une doctrine technique ou par le cadre législatif. Et dans le cadre de notre laboratoire de recherche, donc les chercheurs en sciences humaines et sociales apportent également un regard, celui de la pratique des hommes.
Plus humain.
Et de comment, dans les usages précisément, là aussi c'est pris en compte de manière croissante et, on va dire, de manière plus éclairée aussi.
Des recherches qui remontent comme ça aux instances gouvernementales.
Alors c'est vrai que notre laboratoire, il a une double tutelle, qui est la tutelle de l'université d'une part et la tutelle du CEREMA de l'autre part. Et le CEREMA, c'est un établissement public qui est sous la tutelle précisément du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, qui finalement se trouve à l'interface entre d'une part le ministère avec la vision centralisée qu'on peut en avoir, mais également le CEREMA se veut être au plus près des acteurs du territoire et finalement, parmi sa production, son objectif, c'est de donner des clés d'action aux acteurs locaux. Et de ce point de vue-là, le CEREMA est effectivement un acteur incontournable. Et depuis peu, il est un établissement de recherche. Donc c'est ce qui lui permet également de diffuser ses propres productions auprès des acteurs locaux.
Oui, parce que l'enjeu, il est là. Il faut que toutes vos recherches soient connues et reconnues et puissent être expérimentées.
C'est ça. L'enjeu, c'est non seulement ça, mais également, il faut, j'allais dire, faire adhérer si bien les acteurs locaux que aussi les populations concernées. Je parlais tout à l'heure du train, mais c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on décide de mettre en place un nouveau service que les voyageurs vont forcément le prendre. Il
bien
faut
sûr.
Prendre en compte tout un tas d'autres facteurs sur lesquels peut-être les pouvoirs publics vont pouvoir jouer pour effectivement provoquer des comportements incitatifs.
Oui, on le voit aussi avec l'aérien. Alors, je ne sais pas si c'est votre domaine, mais avec la crise du Covid, on a bien compris que l'avion était un vrai pollueur. Hein. Enfin, c'est pas nouveau. Il n'empêche qu'aujourd'hui, même si beaucoup de gens disent « je prendrai plus l'avion », enfin, l'aérien est reparti à fond et ce problème environnemental n'est pas ne nous empêche pas de prendre l'avion.
Alors effectivement, c'est pas mon sujet de recherche, de prédilection, mais le secteur de l'aérien, c'est pareil, il découvre pas non plus ces problématiques environnementales. Il se trouve que l'État se réveille peu à peu pour décider de la limitation des liaisons intérieures, notamment quand une substitution par le train existe. Il se trouve aussi que le secteur aérien par sa propre recherche et développement, essaye également de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais on est dans une économie mondialisée et forcément, là aussi, très forte inertie. Les mentalités et puis les changements d'organisation vont être là aussi très, très longs.
Oui. Les orientations que vous préconisez et ces formations font, on l'a un petit peu dit avec Vanessa, vont forcément avoir des conséquences sur la création et la création de l'emploi et le maintien de l'emploi.
Alors en Île-de-France, pour en parler de manière plus particulière, puisque c'est le territoire et le bassin d'emploi finalement auquel on est le plus familier, il a plusieurs enjeux actuellement. Donc tous les enjeux dont on vient de parler, qui sont ceux de la transition, et ça on le voit à travers le développement de nouvelles infrastructures. On peut parler du Grand Paris Express, on peut parler aussi de la conversion des parcs de bus qui étaient auparavant à des moteurs thermiques vers des moteurs au gaz ou des moteurs hybrides,
hydrogène,
ou même électriques. Et puis de l'autre côté, on a aussi des enjeux en Île-de-France qui sont plus liés à la gouvernance cette fois-ci, et notamment à l'ouverture à la concurrence qui s'étale sur le temps long, mais finalement dont on commence à voir les premières étapes dès maintenant, qui crée de nouveaux besoins de la part des entreprises, qui crée aussi de nouveaux besoins de la part des pouvoirs publics. Parce que ça veut dire qu'on va passer par des procédures d'appel d'offres, ça veut dire qu'il va falloir être vigilant aussi aux réponses que vont pouvoir fournir les entreprises quant à leur faisabilité. On voit aussi que ça pose des enjeux sociaux, puisque le transport de voyageurs est régi par une législation sociale qui lui est très particulière. Et on le voit aujourd'hui, c'est certainement une des raisons de la pénurie de personnel, ou en tout cas des difficultés de recrutement. Et donc ce sont des points, on va dire, de vigilance auxquels nous on essaye aussi dans nos formations de mettre l'accent, et qui permettent aussi de rendre nos formations attractives du coup.
Alors, donc, vos besoins, c'est faire connaître ces formations en transport et logistique.
C'est faire connaître ces formations, continuer de les faire connaître. Comme disait Vanessa, ce sont des formations qui sont malgré tout ancrées dans le temps long, depuis quand même plus d'une vingtaine d'années. Mais là aussi, on veut développer les relations que l'on a si bien avec les transporteurs qu'avec les pouvoirs publics, avec les acteurs institutionnels. Ça concerne aussi bien le secteur du transport que celui de la logistique, donc aussi bien le secteur des voyageurs que de celui des marchandises. Ça, on voit aussi par le contexte d'ouverture à la concurrence et puis par, on va dire, la diversification des acteurs dans ce secteur d'activité-là, qu'un certain nombre de professionnels, de salariés en entreprise ont besoin de se former à nouveau. Donc là, on reparle de la formation continue. Ont besoin de faire valoir aussi leur expérience à travers des dispositifs qu'on a, nous, de manière historique, qui a sergi par université, qui est la VAE, la validation des acquis par l'expérience.
Ah oui, une sorte de bilan de compétences.
Faire reconnaître son expérience par la validation d'un diplôme.
D'accord.
Et puis aussi en termes de recherche, c'est pour nous, nos besoins, ou en tout cas nos ambitions, c'est de développer des projets de recherche, des programmes de recherche avec le monde socio-économique de l'Île-de-France, donc si bien avec les acteurs institutionnels, les pouvoirs publics évidemment, que les entreprises, pour penser les réseaux de demain, pour penser les usages de ces réseaux-là, avec toujours en toile de fond, on en parle depuis tout à l'heure, la transition environnementale.
Ce qui laisse présager pour CY Transport un bel avenir. malgré tout. Oui.
J'espère.
Et matrice en même temps.
Matrice aussi.
C'est, vous êtes en fait vous êtes en totale fusion, je pense.
Oui, parce que les enseignants chercheurs qui enseignent dans nos formations de licence, de BUT et de master sont des membres du laboratoire matrice.
C'est ça. Oui. C'est ça regroupe combien de personnes aujourd'hui? Ce laboratoire.
Alors le laboratoire matrice, je dirais qu'on est une vingtaine de personnes qui sont permanentes, c'est-à-dire qui relèvent soit de l'université, soit du CEREMA, auxquelles on peut ajouter également des membres associés qui sont en provenance d'autres universités, et puis auxquelles on peut ajouter également des doctorants, donc des personnes qui préparent leur thèse, et des chercheurs contractuels, c'est-à-dire qui sont embauchés dans le cadre des projets de recherche dont j'ai parlé avant.
Très bien. Alors, vous avez une actualité à nous annoncer, un développement de partenariat en cours avec des entreprises en recherche.
Alors, évidemment, l'actualité, là, c'est, comme le disait Vanessa tout à l'heure, on a terminé la phase de recrutement de nos étudiants.
Oui.
Cette année, on a inauguré la plateforme Mon Master pour recruter les étudiants en master. On pratique depuis un certain nombre d'années Parcoursup pour les lycéens qui souhaitent rejoindre l'université. Et donc, une fois cette sélection terminée pour nos formations ouvertes à l'apprentissage, nos futurs étudiants sont à la recherche d'entreprises, donc on invite toute entreprise intéressée par nouer des contrats d'alternance entre les étudiants, l'université et eux-mêmes à revenir vers nous par rapport aux missions qui pourraient confier à nos étudiants. Et puis l'actualité aussi, c'est évidemment le développement de notre équipe de recherche à travers des projets divers et variés. J'ai parlé du transport ferroviaire d'un côté, mais aussi toute cette dimension risque qui est en développement à l'intérieur de notre laboratoire.
Très bien, merci beaucoup. Et puis alors, vous avez cette journée en novembre, la journée métier pour tous, grand public à partir du collège. C'est peut-être vous, Vanessa, qui vouliez en dire un mot.
Oui, effectivement. Donc, on organise cette journée au sein de l'université, donc sur le site principal des chaînes à Cergy. Le programme n'est pas encore tout à fait validé, mais l'idée, c'est bien de faire découvrir, en fait, à l'ensemble, c'est vraiment tout public, donc ça va du collège en passant par le lycéen et même étudiant et professionnel et adulte, mais c'est de faire découvrir en fait ce que je disais tout à l'heure, le potentiel en fait de tous ces métiers qu'on n'imagine pas et qu'on ne connaît pas forcément, et de susciter pourquoi pas de nouvelles vocations, oui, ou alors de les confirmer.
Mais écoutez, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites au sein de l'université pour ces jeunes, hein, et puis pour ces nouveaux métiers qui vont très certainement émerger, on le souhaite en tout cas. Et puis surtout pour, entre guillemets, sauver la planète, hein, c'est le but malgré tout. Merci Christophe Mimmer pour votre expertise. On comprend que la France possède tous les atouts pour faire de ce pays un leader mondial au niveau de la mobilité intelligente et décarbonée. On le souhaite en tout cas. L'économiste en direct se termine bientôt. Juste, Vanessa, vous avez eu un mot de conclusion. Pierre nous a quittés, mais Christophe, un mot avant de nous quitter.
Effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout de suite, le secteur des transports et de la logistique est un secteur on s'en est rendu compte avec peut-être encore plus avec la crise du Covid qu'on vient de traverser, c'est un secteur qui touche finalement, qui en touche beaucoup d'autres. Et est souvent un intermédiaire, mais un intermédiaire indispensable puisqu'il permet d'emmener un certain nombre d'actifs sur leur lieu de travail, permet de déplacer des marchandises. Et puis aussi, il est face à un défi qui est le défi climatique, le défi environnemental. Donc ça laisse présager plein de pistes d'avenir.
Une affaire à suivre en tout cas. Merci infiniment. Merci à chacun d'avoir été les invités de l'économie en direct. Merci d'offrir au territoire une telle capacité de recherche et d'innovation parmi les meilleurs en Europe et même dans le monde, je crois. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Merci Sabrina pour la technique. Retrouvez cette émission comme bon vous semble avec son podcast sur idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vendredi prochain, je vous retrouve en direct pour une spéciale CPME à 9h30. Bonne journée et bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches.
I'm not afraid to